Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je suis perdu, je suis complètement perdu. Moi, Karine, je vous le dis fraîchement, je n'irai jamais plus jamais en Irak. Plus jamais.
Karine, égarée, rage en Irak. Karine, égarée, rage en Irak.
Bonjour, monsieur le restaurateur. Je m'appelle Bob. Je suis le représentant de la saline du village d'à côté. Je voudrais savoir, on vous a envoyé récemment quelques échantillons pour vous faire déguster notre merveilleux sel. Et j'aimerais savoir si vous le proposez sur votre carte. Vous avez un menu nem pour les Chinois et vous servez aussi le célèbre potage Bégatop. Mais je voudrais savoir... Le serton ici, notre sel. Le serton ici, notre sel.
Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. L'émission Civispacem commence avec toujours quelques palindromes de notre ami Gérard Durand, qui nous manque énormément, et dont Elsa et moi, bonjour Elsa.
Bonjour papa.
Nous reprenons le créneau. Voilà. Donc... nous allons vous lire des textes qui sont très prenants, exactement.
De véritables supercutes que nous étalerons sur plusieurs émissions, parce que il faut les digérer. Notre but n'est pas de vous bourrer le crâne, ce serait le jeu du gouvernement, qui bourre le crâne de plein de bêtises, de mensonges, de calomnies et compagnie. Donc... Un uppercut, c'est suffisant. Il faut le digérer, réfléchir là-dessus pour prendre les meilleures décisions pour améliorer.
Et oui, et dans les plages musicales, vous allez avoir des très belles surprises, des choses que je n'avais plus écoutées depuis très longtemps, mais qui m'avaient été suggérées à l'époque par Gérard Durand, qui m'avait dit, écoute, ce chanteur, cette chanteuse, ils sont magnifiques, il faut vraiment que tu apprends bien tout. Et vous allez voir, c'est pas piqué des vers, comme on dit. Voilà. Donc... bien sûr, Sivis Passem fait partie de la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. Donc, si vous voulez vous abonner à notre revue, vous envoyez pour avoir l'abonnement au journal, c'est un abonnement qui coûte 30 euros. Et si vous voulez adhérer à notre association, vous rajoutez 25 euros, ce qui vous fait 55 au total. Et vous envoyez un chèque à l'Union Pacifiste, boîte postale 40 196 75 624, Paris, CEDEX 13. Je vous rappelle l'adresse. Union Pacifiste, boîte postale 40 196 75 624. Voilà. Et ça nous aidera énormément. Et faites passer le message à d'autres personnes. Tout ça. Et si vous voulez vous procurer des anciens numéros, vous pouvez toujours passer à Publico du mardi au dimanche, parce que c'est ouvert aussi le dimanche depuis à peu près 2 ans maintenant. Et vous trouverez des numéros qui sont à l'accueil. Ça.
Je dispose également d'un stock d'anciens numéros datant essentiellement de 2020, 2019 à 2021. Donc, si vous pouvez, voici mon adresse email, marielsa@laposte.net. Vous mettez en objet Union Pacifiste et dans le corps du texte, vous demandez, vous précisez quelle année vous souhaitez obtenir un numéro et avec votre nom, votre adresse, et moi je vous l'enverrai par voie postale.
Et tout ça gratuitement.
Gratuitement, oui.
Surtout.
Oui, gratuitement.
Et on peut vous faire un échantillonnage des numéros que nous avons en plusieurs exemplaires, qui ça pourrait vous faire ou 5 ou 6 exemplaires, ou 10, selon la quantité que vous voulez, étaler sur plusieurs années.
Voilà. En effet.
Voilà. Depuis que nous sommes adhérents à l'Union Pacifiste. Voilà. Et pour les numéros un peu plus récents, donc choisissez l'abonnement, comme ça sera plus simple. Voilà. Je vais vous lire le texte de Yves Lecard, qui présente toujours chaque numéro. Et là, il fait un hommage à Kavanagh, qui nous a quittés, dont c'était l'anniversaire, le 22 février 2023. Voilà. Donc je vais vous lire son hommage. Retenez bien la date du 22 de ce mois de février 2023. Un personnage est né, un personnage important, qui ne sait pas encore comment il sera important. Nul ne sait, il vient de naître. À Neuilly comme Prévert, son père a fui l'Italie que le Duce s'apprêtait à fasciser. Oui, nous sommes en 1923, il y a tout juste un siècle. Mais le grand Kavanagh a été parkinsonné avant d'atteindre 60 ans. C'est pourtant l'occasion de lui rendre un bel hommage, l'occasion de relire toute l'œuvre de ce grand écrivain, de ce grand pacifiste, et si l'on peut faire des vœux en cette nouvelle année 2023, c'est que la plume de Kavanagh, les coups de gueule de Kavanagh, la pensée de Kavanagh, tel un virus positif, s'imprime dans la tête des écoliers, écolières, et dans celle de leurs enseignants, dans celle de leurs parents. Si l'on peut faire un vœu, c'est que l'intelligence germe enfin dans les cerveaux humains, qui nous sortent du marasme fangieux dans lequel nous plongent les politiciens et les guerriers qui les protègent. Que l'intelligence supplante l'obéissance qui mène à la soumission, qui mène à la solution finale, fatale, létale. Tu sais, François, qu'ils sont en train de nouveau de faire marcher les mômes au pas, et les parents par la même occasion. Ah, si tu les voyais, on n'est pas sortis de l'auberge, ni de l'école-caserne. Et ils sont malins, ils mettent un pognon de dingue, puisqu'ils le sont, pour prétendument préparer les écoliers au civisme. En fait, les préparer à la guerre, à l'éventuelle guerre qui s'applique à rendre inévitable. Tu vois un peu l'oxymore, le civisme qui suppose et implique le respect de citoyens, enseigné par l'armée qui ne demande que le respect du drapeau. Et l'obéissance, ce civisme-là, que nous appelons plutôt cynisme, ne forme pas des citoyens, des civils, des gens responsables, mais des soldats, des apprentis tueurs, des apprentis cadavres, des serviteurs, des services tueurs. On est encore là, tu vois. Tu n'as pas assez gueulé de ton vivant, tu ne les as pas convaincus. Qui les convaincra? Qui convaincra les cons? Les dieux ont toujours soif et réclament, les goinfres, toujours plus d'offrandes, de friandises, de sacrifiés, de scarifiés, à défaut de se clarifier. Et le peuple réclame des dieux, des idoles, des papes, des popes, des chefs, des héros, quitte à les chercher sur une pelouse où roule une babale poursuivie par des millionnaires en short. Quitte à les piocher sous l'uniforme galonné qui enverra au casse-pipe leurs propres enfants. Le peuple a soif de gloire, anagramme de rigole, toujours prêt à marcher, à courir, à ramper, à mourir, derrière un drapeau, derrière un chapeau pourvu, qu'il soit pourvu de galons, prétendument sacrés, en fait ensanglanté. L'étendard sanglant élevé, l'étendard cinglant fait crever depuis toujours et, malgré tout, ils mettent toujours un pognon de dingue pour préparer la guerre. Si vos enfants ne vous appartiennent pas, ils n'appartiennent pas davantage à l'État, à l'étau dans lequel on les coince, on les cale, on les parque, mais nona decima morta, les trois parcs de l'Antiquité n'ont plus leur mot à dire, n'ont plus à intervenir dans la destinée de vos enfants. Aucun dieu, aucun maître n'a droit de les envoyer à la guerre, à la mort. C'est pourtant ce que fait votre seigneur actuel. Vous comprenez qui c'est? Macron. Et que vous laissez faire en permettant que vos chers écoliers apprennent le maniement des armes, la nécessité des armes, la glorification des armes. Les enfants vont à l'école, ça devrait être une évidence pour apprendre la vie, pour apprendre l'harmonie, pour apprendre la paix. Et vous les sacrifiez à l'autel de la patrie, que vous sanctifiez, que vous idolâtrez, que vous défilez. La nouvelle devise, à moins qu'elle ne soit pas si nouvelle que cela, c'est finalement toujours la même. Un esprit saint, C-E-I-N-T, dans un corset. Pélops, fils de Tantale, fut sacrifié par celui-ci pour plaire aux dieux. Oh Dieu ! Parce qu'il se prenait lui-même pour un dieu. Seuls les dieux ont le droit de vie et de mort sur leurs propres enfants. Et que les dieux s'appellent Zeus, Ali, Joseph, Mahomet, Mao, Marx, Maximilien ou Patrie, c'est la même chose, la même cause, la même fabrique de robots, d'automates, de mercenaires. Il serait temps, bon sang, que l'intelligence cesse d'être complètement artificielle et serve enfin à réfléchir, non plus à les fléchir. Sauver notre univers, voilà le SNU que nous pourrons créer à l'échelle internationale, ou plutôt un national par l'apprentissage et la pratique de l'espéranto que réclamait déjà Cavana, la pratique d'une langue commune, d'une rencontre, d'un échange, d'un outil de compréhension et non d'une division, d'une irrémédiable et éternelle division. Quand tous les mômes parleront espéranto, ce sera bien plus facile de leur faire croire que de l'autre côté d'une frontière, quelqu'un les menace. Reviens François, bon sang, sinon je reviens à toi. Yves Lecard.
Eh bien, sur vraiment ce beau texte de M. Lecard, j'ajoute ma contribution par un appel à une mutinerie générale. Et prêtez bien attention, chers auditeurs, parce que il ne s'agit pas que les parents soient d'un côté, que les adolescents, filles et garçons, se mutinent de l'autre côté. Non, il s'agit que les familles entières, intergénérationnelles confondues, les grands-pères, les oncles, les tantes, les mamans, les papas, les cousins, les grands-cousins, les grandes-cousines, les petites cousines, neveux et nièces se donnent la main, interagissent et disent non, non au naissé nu, non, je ne veux pas contribuer à ce massacre, non, je refuse de me soumettre. Parce que, ayez bien conscience d'une chose. Une chose qui est bien effacée par le gouvernement, quelles sont les personnes qui ont donné vie à l'objection de conscience? Eh bien, tout simplement les mutins. Que ce soit les mutins de 14-18, ou alors les mutins de partis extrêmes, parce qu'il y en a eu. Ils ont même été les premiers déportés et gazés par Adolf Hitler. Alors, c'est dire. Mais ce sont ces mêmes mutins qui ont caché des dossiers pour permettre qu'on ait conscience aujourd'hui de tous ces massacres. C'est grâce à eux, ces mutins anonymes et oubliés, que l'objection de conscience existe. Alors, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est nous mutiner. Nous mutiner pour qu'ils ne soient pas oubliés. Nous ne connaissons pas leur nom, ni leur âge. Nous ne savons pas combien ils sont, mais on peut facilement deviner qu'ils sont des milliers, des millions, si on regroupe dans chaque pays. Que ce soit pays occupé ou pays qui s'est pris la grosse tête. Et si vous ne vous mutinez pas, voilà votre impact sur le climat. Voilà ce qui va se passer. Parce que vous risquez de contribuer aux essais nucléaires. Donc, mais avant que je vous lise le texte du Tian, une plage musicale s'impose.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie? Les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais?
Si vous n'avez pas reconnu Marlène Dietrich, c'est que vraiment, on est vraiment dans les oreilles. C'est un disque que j'ai réussi à me procurer il y a très longtemps, The Essential Marlène Dietrich, où il y a 23 chansons interprétées, bien sûr, dans sa langue natale, en allemand, en anglais, et quelques chansons en français. Et celle-ci, vraiment, était arrivée à point nommé pour mettre en intro ce que ça va vous lire maintenant.
Les sites d'essais nucléaires français. La France s'est lancée dans un programme nucléaire militaire à partir de la création du Commissariat à l'énergie atomique, CEA, en octobre 1945. Des recherches furent alors rapidement entreprises pour trouver un site d'expérimentation. Les îles Kerguelen, l'atoll de Clipperton ou l'archipel des Tuamotu ont été évoquées, mais ces territoires furent jugés trop éloignés pour des raisons techniques. Ainsi, plusieurs missions de reconnaissance réalisées en 1957, le Sahara algérien fut retenu, malgré les troubles naissants, en raison de sa proximité géographique avec la France et de ses vastes zones désertiques à faible densité de population. Le 5 novembre 1959, Jules Moch, délégué français aux Nations Unies, s'exprimait ainsi sur le choix de ce site. Les populations de tous les États voisins du Sahara, Maroc, Tunisie, Libye, courront moins de dangers que les habitants de la Californie et de la Sibérie qui n'en coururent aucun. Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France. Deux zones, Regan et Inn Ecker, furent désignés pour être les sites de ces expérimentations. 17 essais nucléaires ont été réalisés, ainsi que des essais complémentaires, n'ayant pas entraîné de réaction en chaîne, mais une dispersion de plutonium. Une troisième zone, Colombe-Béchard, à Maguire, fut utilisée pour des essais chimiques et pour la propulsion des missiles. L'obligation de quitter le territoire algérien devenu indépendant en 1962 obligea les autorités françaises à trouver un nouveau lieu. Ce sera la Polynésie. Après des décennies d'affirmations mensongères, il faudra attendre 2016 pour qu'un président de la République, François Hollande, lors d'un déplacement en Polynésie, plus précisément à Tahiti le 22 février 2016, théâtre de 193 essais nucléaires, déclare « Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires. » Les Algériens attendent toujours de la France une telle déclaration de reconnaissance de l'impact des essais nucléaires. La Polynésie française devient le second site d'essais nucléaires de la France en raison de l'obligation de quitter le Sahara dans le contexte du processus de décolonisation algérien. 193 essais nucléaires atmosphériques et souterrains seront menés dans les atolls de Moruroa, principal site d'essais nucléaires du 2 juillet 1966 au 27 décembre 1995 et de Fangatofa du 19 juillet 1966 au 27 janvier 1996. Les atolls de Moruroa, de Fangatofa et de Ao vont devenir le théâtre de gigantesques travaux du Centre d'expérimentation du Pacifique, CEP, port, pistes d'aviation, blockhaus, logements remplaceront les cocoteraies. Si la nature est modifiée, c'est aussi toute la vie sociale qui est totalement bouleversée, avec l'arrivée de plusieurs milliers de métropolitains. Dès le départ, il y aura en Polynésie des opposants à cette bombe française, tels que le député John Teariki, qui prononcera le 7 septembre 1966 un discours vindicatif lors de la visite du général de Gaulle. Puissiez-vous, monsieur le président, rembarquer vos troupes, vos bombes et vos avions. Alors plus tard, nos leucémiques et nos cancéreux ne pourront pas vous accuser d'être l'auteur de leur mal. Alors nos futures générations ne pourraient pas vous reprocher la naissance de monstres et d'enfants tarés. Les essais nucléaires atmosphériques seront stoppés en 1974, en partie à cause de la pression néo-zélandaise et de la procédure engagée par cet État auprès de la Cour internationale de justice. Par la suite, jusqu'en 1996, le CEP va effectuer 147 explosions souterraines à Fangatofa et à Moruroa. Le 26 juillet 1979, une partie de la falaise récifale de Moruroa va s'effondrer dans l'océan suite à l'accident du tir Tidé provoquant un tsunami qui balayera des travailleurs présents sur le récif. Les derniers essais nucléaires seront réalisés entre septembre 1995 et janvier 1996 à la suite de la décision du président Jacques Chirac de rompre le moratoire décidé en avril 1992 par le président François Mitterrand. Une belle connerie qu'il vient de faire là. Plus de 25 ans après, les atolls ont été certes nettoyés, des déchets visibles, mais la radioactivité demeure au cœur des dizaines de puits creusés. L'atoll de Moruroa nécessite désormais une surveillance constante. En effet, un système de surveillance géomécanique, programme Telsit, analyse en permanence les mouvements sismiques du lagon, celui-ci n'étant plus stable à cause des détonations nucléaires. Le risque est réel. Outre le relâchement d'une quantité astronomique de radioactivité dans le Pacifique, il existe aussi le risque pour la population civile vivant aux abords du lagon de Touréa, situé à une centaine de kilomètres, de l'arrivée en moins de 10 minutes d'une vague géante de 3 mètres. Regardez Abyss, messieurs, dames. Les associations polynésiennes Moruroa et Tatou et 193 travaillent activement pour que l'histoire ne soit pas oubliée et que les populations affectées puissent enfin être reconnues comme des victimes. La loi numéro 2010-2, datée du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, s'applique à l'ensemble des essais, qu'ils aient eu lieu en Algérie ou en Polynésie, et qui concernent l'ensemble des populations civiles comme militaires. Mais la dimension environnementale a été écartée du projet de loi déposé en novembre 2008 par le ministre de la Défense Hervé Morin. Les différentes propositions de loi déposées à partir de 2002 par les parlementaires, y compris la proposition de loi commune à tous les partis politiques, traitait pourtant des conséquences environnementales. Mais la prise en compte de cette dimension aura nécessité pour les sites du Sahara la négociation d'un accord bilatéral avec le gouvernement algérien, ce qui, en l'absence d'une réelle volonté politique de part et d'autre de la Méditerranée, aurait conduit à un blocage de tout le processus d'indemnisation. Alors, selon la loi Morin, toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français est inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice. Selon l'article 1 de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires, dite loi Morin, adoptée le 5 janvier 2010, après une dizaine d'années d'actions menées par les associations de victimes et leur soutien. L'adoption de cette loi par le Parlement français représente une première étape importante, car elle constitue une admission officielle que les essais nucléaires français, atmosphériques et ou souterrains ont créé des problèmes sanitaires, des problématiques sanitaires. Selon les chiffres du ministère de la Défense, 150 000 personnes civiles et militaires ont participé aux essais nucléaires entre le 13 janvier 1960 et le 27 janvier 1996, sans compter les populations sahariennes et polynésiennes. Cette participation ouvre, en cas de la reconnaissance d'une maladie radio-induite due à une présence au Sahara ou en Polynésie lors des campagnes d'essai, des droits à une indemnisation. Depuis le décret numéro 2014-1049, daté du 15 septembre 2014, la loi reconnaît désormais 23 maladies dressées à partir des rapports de l'UNSER, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, au lieu seulement de 18 pathologies. Au total, 1598 dossiers déposés par des Français de métropole, des Polynésiens et des Algériens ont été, entre le 5 janvier 2010 et le 31 décembre 2019, enregistrés par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, CIVEN. Ce chiffre global est assez faible au regard du nombre total de victimes. Cela s'explique principalement par l'absence d'informations et la difficulté d'accès aux documents pour prouver sa participation aux essais. On constate sur les 1598 dossiers que seulement 49 proviennent de populations résidant en Algérie au moment des essais. Depuis la modification de la loi en décembre 2013, alors c'est numéro 2013-1068 du 18 décembre 2013, la zone polynésienne ne se limite plus à un périmètre précis, les atolls de Moruroa et de Fangatofa et les zones exposées proches, mais s'étend à toute la Polynésie française. Ainsi, le tribunal administratif de Papeete a traité 31 affaires au cours de l'année 2019, soit autant que lors des 8 premières années de l'application de la loi. Ce n'est pas encore le cas pour le Sahara, où les zones dites affectées ont été déterminées de manière très restrictive. Le nombre de victimes indemnisées depuis 2010 au 31 décembre 2018 est de 363 personnes. Source, rapport annuel d'activité 2019 du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, CIVEN. Le nombre d'indemnisations a fortement augmenté en 2019, plus 145, grâce à la suppression, en 2017, de la notion de risque négligeable, ouvrant la voie au principe de présomption légale. Si 75 propositions d'offres d'indemnisation ont été faites auprès de victimes civiles et militaires ayant séjourné en Algérie durant la période des essais, une seule victime habitant en Algérie a reçu une indemnisation en près de 10 ans. Cette importante différence de traitement s'explique en grande partie par l'impossibilité pour les habitants et les populations laborieuses des oasis, PLO, selon le nom donné aux travailleurs algériens recrutés pour effectuer différents travaux pour prouver leur présence par des documents écrits, feuilles de salaire, contrats, preuves de résidence, sur la zone désignée par la loi, sans oublier l'absence de documents pour la demande d'indemnisation en langue arabe. Des exemples s'imposent. Alors, par exemple, à Reagan, le terme de PLBT, population laborieuse du Batouat, était employé pour désigner une main-d'œuvre non spécialisée, affectée à des tâches de déchargement de camions, de déplacement de pierres, de création de tranchées, principalement issues du peuple Touareg du Toua et même du nord de la Drar. Selon l'article 2, il faut avoir résidé ou séjourné, soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967, au centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967, au centre d'expérimentation militaire des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres. Mon Dieu. Dans le traité signé entre l'Algérie et la France en 2012, figurait la mise en place d'une commission franco-algérienne dédiée aux questions d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Cette commission s'est réunie une seule fois, le 3 février 2016. Source, rapport annuel d'activité 2015 du CIVEN. Les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron semblent vouloir faire avancer cette question. Ils ont chacun nommé en juillet 2020 une personnalité pour réaliser un travail mémoriel de vérité entre les deux pays, incluant la question des essais nucléaires. Leurs conclusions sont attendues pour la fin de l'année 2020. Comptez les années, messieurs, dames. Nous disposons désormais d'une meilleure connaissance de la contamination radiologique des différentes installations qui appartenaient au Centre d'expérimentation du Pacifique, CEP. Alors, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, établit depuis 2013 un inventaire géographique qui liste les trois sites de stockage historique, Fangatofa, Ao, Moruroa, où le ministère de la Défense a stocké et ou réaliser des immersions de déchets. Sur les cinq inventaires, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, publiés et disponibles sur leur site, nous trouvons les détails de la nature des déchets, des activités radiologiques de chacun et le type de radionucléides. De plus, il est spécifié que sur les sites polynésiens, il est exercé une surveillance qui concerne l'environnement des deux atolls et se compose d'un suivi en continu des aérosols atmosphériques et de la dose intégrée et d'une campagne annuelle de prélèvement d'échantillons, la mission Turbo, menée chaque année de mars à juin. Bien sûr, le fait que ces 193 essais ont été réalisés sur un territoire toujours français a facilité une prise de conscience du risque environnemental comme sanitaire. Mais celle-ci résulte avant tout de l'action menée par quelques lanceurs d'alerte. À ce titre, il faut rendre hommage au travail précurseur de Bengt et Marie-Thérèse Danielson en Polynésie, de Bruno Barillo, cofondateur de l'Observatoire des armements, de John Doom, qui dirigea le bureau pacifique du Conseil œcuménique des Églises, de Roland Oldham, président de l'association Moruroa et Tatou, ainsi qu'aux travaux réalisés par l'Observatoire des armements et par la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRI-IRAD, sans oublier les actions des militants de de Fry et des différentes équipes de Greenpeace dans le Pacifique. Et relayée par des personnalités et des organisations au niveau national et international, y compris par certains États, notamment auprès de la Cour internationale de justice Affaires des essais nucléaires, Nouvelle-Zélande, c'est France, le 9 mai 1973, de manifestations citoyennes et politiques locales, et enfin d'épisodes mêlant actions secrètes et interventions militaires. Par exemple, le sabotage du navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, le 10 juillet 1985, par les services secrets français amarrés à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui fit à mort le photographe portugais Fernando Pereira. Pour ce qui concerne les sites d'essai situés en Algérie, territoire indépendant, ce n'est pas le cas. Selon les données disponibles dans un rapport de 266 pages daté de 1996, classé « confidentiel défense », versé aux archives du ministère de la Défense et non déclassifié, il n'a été retrouvé aucune synthèse et aucun compte-rendu donnant l'état radiologique dans lequel les champs de tir ont été restitués en 1967 à l'autorité algérienne. Alors, source, rapport sur les essais nucléaires français 1960-1996, tome 1, la jeunesse de l'organisation et les expérimentations au Sahara, CSEM et CEMO, page 236. Ce rapport sera cité à de nombreuses reprises et afin de faciliter la lecture, celui-ci sera cité ainsi dans le texte, rapport confidentiel défense. Il ne fait pas partie des documents qui ont été déclassifiés suite au recours judiciaire des associations de victimes des essais, Aven et Moruroa et Tatou. Cette phrase traduit une situation dans laquelle nous sommes toujours, 60 ans après le 13 février 1960, date du premier essai nucléaire français. Le passé nucléaire reste profondément enfoui dans les sables. Les sites ne font pas l'objet de contrôles radiologiques et encore moins d'actions de sensibilisation des populations locales aux risques sanitaires. L'élaboration d'une arme nucléaire nécessite l'application de connaissances scientifiques extrêmement complexes. Une fois les hypothèses scientifiques appliquées à la construction d'un dispositif nucléaire, il est nécessaire de les valider en procédant à l'expérimentation de plusieurs exemplaires. En effet, un seul tir ne suffit généralement pas pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. De multiples essais sont nécessaires pour valider des séries de calculs, s'assurer de la sécurité de la bombe et cette sécurité, affiner de nouveaux postulats scientifiques pour poursuivre la recherche et enfin procéder à l'ultime essai, celui de la qualification. Cependant, à ces objectifs techniques et militaires se sont aussi ajoutées des raisons politiques, comme notamment lors des essais nucléaires indiens et pakistanais de 1998. Outre le Sahara algérien et la Polynésie française, ce sont au total plus de 60 sites à travers le monde, dont Semipalatinsk au Kazakhstan, pardon pour la prononciation, l'île de Nouvelle-Zemblée dans l'Arctique, les îles Marshall, Maralinga en Océanie, dans le Xinjiang en Chine, etc., ont été utilisés pour faire exploser plus de 2000 dispositifs nucléaires à des fins militaires ou pacifiques. En 2020, en raison de la complexité scientifique et financière, seuls les 5 États dotés d'armes nucléaires mèneraient des programmes de simulation d'essais nucléaires pour garantir la sécurité, la technologie et le renouvellement de leur ogive nucléaire. Ces programmes s'appuient sur des superordinateurs et des installations laser, mégajoules au BARP dans les Landes, à Épure à Val-Duc, Côte d'Or, pour la France, National Ignition Facility pour les États-Unis, ISKRA-6 pour la Russie. La France est la première puissance nucléaire au monde à avoir conçu une ogive nucléaire, la tête nucléaire aéroportée, TNA, pour le missile de croisière ASMP-A avec son programme de simulation. Alors, source, rapport 2007 du commissariat à l'énergie atomique. La sécurité et la fiabilité du fonctionnement auront été démontrées sans essai nucléaire à l'aide du programme simulation. Alors, voici une liste de chiffres concernant les essais nucléaires depuis le 16 juillet 1945. Alors, aux États-Unis, à la tête. Premier essai nucléaire, 16 juillet 1945. Dernier essai nucléaire, 23 septembre 1992. Alors, essai atmosphérique, 215. Essai souterrain, 817. Total, 1032. URSS. Premier essai nucléaire, 29 août 1949. Dernier essai nucléaire, 24 octobre 1990. Essai atmosphérique, 221. Essai souterrain, 494. Total, 715. France, troisième position. Donc, 13 février 1960 pour le premier essai. Dernier essai nucléaire, 27 janvier 1996. Essai atmosphérique, 50. Essai souterrain, 160. Total, 210. Suit la Chine. Premier essai nucléaire, 16 octobre 1964. Dernier essai nucléaire, 29 juillet 1996. 23 essais atmosphériques. 22 essais souterrains. Total 45. Royaume-Uni. Premier essai nucléaire, 3 octobre 1952. Dernier essai nucléaire, 26 novembre 1991. 21 essais atmosphériques. 24 essais souterrains, 45 au total. En Inde, premier essai nucléaire, 18 mai 1974. Dernier essai nucléaire, 13 mai 1998. Zéro essai atmosphérique. 3 essais souterrains. Au Pakistan, premier essai nucléaire, 28 mai 1998. Dernier essai nucléaire, 30 mai 1998. Zéro essai atmosphérique. 2 essais souterrains. Corée du Nord. Premier essai nucléaire, 9 octobre 2006. Dernier essai nucléaire, 3 septembre 2017. Zéro essai atmosphérique. 6 essais souterrains. En Israël et Afrique du Sud, premier essai nucléaire, 22 septembre 1979. Dernier essai nucléaire, 22 septembre 1979. Un essai atmosphérique. Alors, ce qui fait le total de tous ces essais atmosphériques, 531. Total de tous ces essais souterrains, 1528. Alors, vous additionnez ces deux chiffres, 2059. Et vous vous demandez après pourquoi il y a du réchauffement climatique. Alors, si vraiment, vraiment, vous avez un peu de tête, un peu de cœur, vous vous mutinerez plutôt que de contribuer à ça.
Merci à ça.
On s'aime, on se détruit. On détruit ce qu'on aime. On transforme, construit, démolit le jour même. On met dans des musées ou bien dans des remises. On fait des inventaires, on archéologise. Et l'on reconstitue, on classe et puis l'on jette. On gratte, on rajeunit, on répare, on regrette. On mieux dit culturel, on rétroactivise. On flashback, on rallonge, bien sûr, on modernise. On modélise le kitsch, le rock devient rétro. Le rétro devient in, le chic, c'est le métro. On met au goût du jour l'art pompier mis en grange. On rappe sur racine et nos frusques sont gringes. La perestroïka, bravo, et puis l'Europe. On constate trop tard qu'on s'américanise exception culturelle, on devient misanthrope. Paysans et artistes pensent autant les cerises, et bien que la cigarette enrichisse la seita, on blâme le tabac, ce serait positif si l'on ne devenait un séropositif par des transfusions qui vous flanquent le sida. Et l'on se met au vert, écolo à outrance, les phoques et les baleines prennent de l'importance. Retraités, bien trop tôt, le chômage nous alarme. Pour faire du pognon, on fabrique des armes. On essaie de les vendre aux damnés de la terre. On crée droit d'ingérence et logique de guerre. Mais quand tout près la purification ethnique se fait à nos côtés, on se fait pudique, on prétend associer guerre et humanitaire. Une seule chose reste sur toute notre terre, indivise, immuable, intouchée, intouchable, la connerie. La connerie, j'en sais quelque chose, elle vous foutrait en pénitence. Le gamin qui vole une rose, elle vous confisquerait l'enfance. À 20 ans, il a bien fallu que je serre mes dents, que je bouffe mes larmes, quand elle est venue me botter le cul déguisé en présenté arme. Et puis elle m'a jeté parmi ces gens qui ont leur cœur au frigo, qui lisent le journal de l'ennui, qui prennent leur vie comme un métro. Mais dites-moi comment vivre dans ce monde où l'amour meurt comme une fleur. Comment vivre dans ce monde où je vois faner mon bonheur. Parfois la connerie s'en dimanche pour venir dîner en famille et causer et tremper ses manches dans quelques sauces de lentilles. On a pour moi des réparties plus blessantes que des fourchettes, des mauvais sourires qu'on essuie discrètement dans sa serviette. Puis vient l'heure miraculeuse des refeutrés de l'euphorie, on reprend de doigts de chartreuse. On digère, on s'épanouit. Mais dites-moi comment vivre dans ce monde où l'amour meurt comme une fleur. Comment vivre dans ce monde où je vois faner mon bonheur. En chasse de ragots, la connerie se perche aux fenêtres, la langue pire qu'un grelot, l'œil rapace au fond des lunettes. Si j'entends déjà la crécelle de ces puériles calomnies, c'est que je mène autrement qu'elle ma petite bourrique de vie. C'est que je ne lui fais point brouter l'herbe pourrie de la routine, c'est que j'invente ma forêt qui déracine les usines. Et malgré tout, j'ai pu vivre dans ce monde où l'amour meurt comme une fleur. J'ai su vivre dans ce monde où tu m'as donné le bonheur.
Voilà, donc nous avons écouté deux titres de Michel Valette. Ce sont des textes. Le premier texte qu'il a lu, le Prélude à la connerie, était écrit par Michel Valette, et le second par Gilbert Hennevic. Voilà. Et Michel Valette, c'était un grand ami de Gérard Durand, qui l'avait reçu lors de ses émissions précédentes. Voilà. Je vais vous lire maintenant un texte de Bernard Bessa sur la guerre en Ukraine, la caravane pour Stop the War Now. Alors, ça s'appelle « Imaginez la paix en temps de guerre ». La quatrième caravane de la paix, comprenant une délégation italienne et 175 associations, s'est rendue à Kiev du 26 septembre au 3 octobre 2022 dans le cadre de la campagne Stop the War Now. La revue italienne Azione Non Violenta a consacré son numéro de décembre 2022 à la campagne contre la guerre. Elle reproduit le journal de la délégation italienne qui a rencontré Yuri Chelyazenko et les membres du mouvement pacifiste ukrainien. Après avoir pris une photo de groupe dans le jardin botanique devant la statue du Mahatma Gandhi, les pacifistes italiens se sont rendus à l'université de Chernivtsi, excusez-moi de la prononciation, où s'est tenu un important séminaire qui avait pour titre « Imaginer la paix en temps de guerre ». Belle occasion pour mieux connaître le mouvement des objecteurs de conscience ukrainiens, parce qu'il y en a, comme du côté russe aussi. J'ai relevé quelques extraits de l'agenda pour la paix en Ukraine, lu devant les participants de la caravane. C'est avec une grande émotion devant cette caravane que nous, pacifistes ukrainiens, rappelons notre engagement de mettre fin à la guerre avec des moyens pacifistes. C'est la paix et non la guerre qui est la norme de la vie humaine. La guerre est un crime de masse organisé. Notre devoir sacré est de ne pas tuer. Aujourd'hui, quand partout la boussole morale est perdue, le soutien à l'autodestruction de la guerre et de l'armée est en augmentation. Il est particulièrement important pour nous de garder notre bon sens, de rester fidèles à notre choix de la non-violence, de construire la paix et de soutenir les personnes qui aiment la paix. En condamnant l'agression russe contre l'Ukraine, l'Assemblée générale des Nations unies a réclamé une résolution pacifique et immédiate du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et a souligné que les parties en conflit devaient respecter les droits humains et le droit humanitaire international. Nous partageons cette position. Les prises de position politique guerrière jusqu'à la victoire absolue et le refus des critiques des défenseurs des droits humains sont inacceptables. Elles doivent changer. Il faut un cessez-le-feu, des pourparlers de paix, mieux encore, une conférence internationale pour la paix et un travail sérieux pour corriger les tragiques erreurs commises par les deux parties en conflit. La poursuite de la guerre a des conséquences catastrophiques et mortelles. Elle crée des traumatismes dans la société, non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier. Tôt ou tard, les parties s'asseyront à la table des négociations, si ce n'est après une décision raisonnable, ce sera de toute façon sous la pression d'une souffrance insupportable et d'un épuisement que l'on peut éviter par la voie diplomatique. La défense du pays doit se faire par des méthodes non violentes, non armées. Tout gouvernement brutal est illégitime et rien ne justifie l'oppression des peuples et la conquête sanguinaire dans l'objectif illusoire d'un contrôle total ou d'une occupation de territoire. Personne ne peut se soustraire à la responsabilité de ses propres erreurs en prétextant être victime des erreurs des autres. Le comportement erroné et même criminel, de quelque côté qu'il soit, ne peut justifier la création d'un mythe de l'ennemi avec lequel il serait impossible de négocier et que l'on doit détruire coûte que coûte, même au risque de s'auto-détruire. Après avoir dénoncé la position de l'État ukrainien contre l'objection de conscience, l'armée ukrainienne qui refuse toute alternative à l'exercice militaire, la transformation forcée pendant la guerre du statut civil en statut militaire et l'interdiction de se déplacer librement dans le pays ou de se rendre à l'étranger, même en cas de danger. Le rédacteur ajoute: les objecteurs de notre mouvement pour la paix et de tous les mouvements pour la paix dans le monde sont de soutenir les droits humains, de refuser de tuer, d'arrêter la guerre en Ukraine et toutes les guerres du monde, de garantir la paix et un développement digne pour tous les peuples de la planète. Pour atteindre ces objectifs, nous dirons la vérité sur le mal et le mensonge de la guerre. Nous apprendrons et enseignerons les pratiques de la vie pacifique, sans violence. Nous aiderons ceux qui en ont besoin et particulièrement ceux qui ont été touchés par la guerre et par l'obligation injuste de soutenir l'armée et de participer à la guerre. La guerre est un crime contre l'humanité. Nous sommes donc déterminés à ne soutenir aucune sorte de guerre et à lutter pour l'élimination de toutes les causes de guerre. Dans le numéro de décembre 2022 de la revue Azione Non Violenta, on peut lire aussi un très intéressant et très long entretien avec Ruslan Kotsaba, président du mouvement pacifiste ukrainien. Objecteur de conscience, il a été détenu en 2015 pendant 524 jours pour avoir exprimé ses idées pacifistes, son refus de tuer et avoir appelé au boycott de la mobilisation en Ukraine dans une vidéo publiée sur YouTube. Je vous conseille d'essayer de la trouver. Journaliste et correspondant de guerre, il avait couvert en 2014 la guerre du Donbass et avoir interviewé des personnes des deux côtés du conflit. L'accusation avait demandé 13 ans de détention. Il avait été considéré comme prisonnier de conscience par Amnesty International. Grâce à l'intervention de l'IRG et du BEOC, il avait été libéré. Mais en 2022, après l'attaque par la Russie, il avait été à nouveau condamné à 15 ans de prison. Il avait décidé alors de quitter l'Ukraine. Sa demande d'asile politique en Suisse, en Autriche et en Allemagne lui avait été refusée. Il s'est réfugié aux États-Unis, où le journaliste Daniele Torino a pu l'interviewer. Je vous rappelle le nom de ce monsieur, Ruslan, je vais l'appeler, R-U-S-I-A-N, Kotsaba, K-O-T-S-A-B-A, le président du mouvement pacifiste ukrainien. La rédaction d'Azione Non Violenta rapporte aussi les témoignages d'objecteurs de conscience russe et biélorusse, ainsi que les points de vue des personnalités du mouvement non-violent italien. Pour celles et ceux qui ont la chance de lire l'italien, cette revue, toujours instructive, bien rédigée et bien illustrée, est une source importante d'informations. Comme quoi, même en Russie, il y a des jeunes qui ne veulent pas... comme ça. Et c'est dommage qu'ils veulent à tout prix le faire entrer. Donc, oui, quand on lit ce texte-là, on voit comment Macron veut à tout prix dire « Oui, vous allez passer 2 mois pour faire un petit entraînement, mais c'est pour que vous soyez prêts au cas où de prendre les armes. » Et il veut, à la fin, il veut le but final, c'est de enrôler d'office, reprendre une nouvelle conscription moderne et obligatoire pour les jeunes. Alors quand ils sont en seconde et qu'ils veulent avoir passé leur diplôme pour pouvoir trouver du travail, le meilleur travail pour l'armée, c'est prendre un fusil et aller tuer les autres. Comment des parents peuvent envoyer leurs enfants à la guerre, que ce soit fille ou garçon, les deux? Et quand on voit même que maintenant, même des femmes s'enrôlent dans la police, elles peuvent paraître encore très, très jolies de visage. Mais quand on les voit marcher, on dirait des garçons manqués. On se demande comment elles peuvent arriver à trouver le plaisir d'avoir un uniforme. C'est le plaisir de l'uniforme. Et ils disent, si tu tues quelqu'un, t'es couvert. Mais qu'est-ce que c'est cette ânerie? Le deuxième texte que je vais vous lire est signé Suzanne Glenner, que vous pouvez retrouver à la fin de ce mois-ci, où nous ferons une émission de tous les trois avec Elsa. Pas de soldats, pas de guerre, pas de second front avec l'Ukraine. Telle est la devise d'Olga Karach, qui a accordé une interview en anglais à Union Pacifiste vendredi 23 décembre dernier, et dont voici un résumé. Olga est une pacifiste biélorusse, coordinatrice d'associations de défense des droits humains regroupées sous le sigle Our House, notre maison, centre international pour des initiatives citoyennes créé en 2002 et dont le siège est à Vilnius, capitale de la Lituanie voisine, par où passent en ce moment nombre d'objecteurs de conscience biélorusses, 10 000 à 20 000 jeunes. Au moins cela, si le jour ils reviendront dans leur pays, il faut vraiment que le pays soit en paix. Qui refusent l'enrôlement, ils passent aussi par la Géorgie et même par la Turquie. Parmi plusieurs récompenses internationales reçues par Olga, il y a notamment le prix que lui a décerné en 2000 Amnesty International pour son combat en faveur de la paix et à l'objection de conscience. Ayant fait le pari pacifiste d'empêcher le gouvernement de Loukachenko d'associer l'armée biélorusse, forte de 30 000 à 40 000 hommes, au projet russe d'invasion à l'Ukraine par sa frontière nord, Olga lance un appel à l'Union européenne de créer un couloir humanitaire entre la Biélorussie et les pays baltes, la Pologne, l'Europe occidentale, afin d'évacuer tous les soldats biélorusses et de les subtiliser à Loukachenko et à ses ordres guerriers. Car, faute de combattants, les combats cesseront, pour ainsi dire, avant même de commencer. Le second front ne pourra pas s'ouvrir. La mise en valeur publique internationale des droits des objecteurs de conscience contribuera à encourager la population masculine en âge de se faire recruter contre son gré entre 18 et 65 ans. C'est complètement fou. À affirmer haut et fort la légitimité de son refus. No Man's Now est le nom de la campagne menée par les pacifistes biélorusses avec cet objectif. Cela pourra également freiner, un tant soit peu, les sévices du régime de Loukachenko contre ses opposants. Olga est elle-même en ce moment considérée comme une terroriste dans son pays. C'est pourquoi elle s'est réfugiée en Lituanie. Il y a quelques jours à Berlin, Olga s'est exprimée en public face à Rudi Friedrich de la DFG-VK, les pacifistes d'Allemagne, qui traduisait ses propos concernant la large hostilité à la guerre de l'opinion publique biélorusse. Ce qui explique, compte tenu de la fraternité séculaire qui lie ce pays à l'Ukraine. Un certain nombre de citoyens biélorusses ont d'ailleurs rejoint l'Ukraine pour combattre de ce côté. Cela montre l'extrême complexité des relations politiques dans la région. Or, Loukachenko, président de la Biélorussie, depuis plus de 20 ans, avec plusieurs élections contestées à son actif, entretient, lui de son côté, une coopération amicale avec la Russie de Poutine. Et cette coopération prend maintenant une tournure de plus en plus militaire. Pour preuve, la Russie lui envoie des formateurs militaires, du matériel et aussi des groupes militaires privés, Wagner. On en parle actuellement, tout ça. Et c'est eux qui sont les fers de lance pour démolir les remparts de l'Ukraine, pour ceux qui protègent leur pays. Dégueulasse, quand on dit. Dont l'objectif d'impliquer l'armée biélorusse dans les préparatifs à une attaque de l'Ukraine en co-belligérance. C'est ce second front que veut empêcher les pacifistes de Orhaus. Le gouvernement biélorusse vient même d'acheter des centaines de sacs pour cadavres. Macabre précaution. Il est à noter en outre qu'il existe depuis plusieurs années en Biélorussie des camps militaires dits de loisirs et de vacances pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans, avec apprentissage de survie, de secours en milieu hostile et maniement d'armes et matériel militaire. Dès 6 ans. Je comprends pourquoi si Macron arrive à faire ce truc-là en France, comment un enfant de 6 ans peut tenir un fusil, une mitraillette? C'est la folie douce. En marche, on notera qu'une autre opposante politique et ancienne candidate concurrente à la présidence, Svetlana Tikhanovskaya, a créé un gouvernement en exil en Lituanie. Mais elle se situe dans le sillage de l'OTAN, organisation militariste avérée, et le prix Sakharov lui a été attribué par le Parlement européen de Strasbourg. C'est impossible que donner quelqu'un qui est adepte de l'OTAN. L'OTAN pousse la guerre contre l'Ukraine, comme ça. C'est la folie. Alors, attendez, je reprends ma phrase. Le prix Sakharov qui lui a été attribué, le Parlement européen à Strasbourg, et n'en fait pas une pacifiste. Si ses déclarations lors de sa venue à Paris en février dernier mettent en garde, à juste titre, contre une politique d'apaisement à la munichoise avec des dictateurs, les méthodes guerrières d'alors se sont toutefois avérées totalement mortifères pour les peuples vaincus comme pour les peuples vainqueurs. Quand on parle de Munich, ça me rappelle Adolphe. Un petit peu de musique pour... Attends, Elsa, si tu peux lire un petit truc en attendant, parce que j'ai un petit problème avec le lecteur.
Oui. Alors, place à la réflexion pour savoir comment se sortir de cet Ouroboros, enfin, le serpent qui se mord la queue. Alors, pour cela, un extrait du pouvoir de Bertrand de Jouvenel. Étendue du pouvoir, étendue de la guerre. Comment accroître cette dotation? Comment augmenter la part de la richesse nationale qui passe dans les mains du pouvoir et devient ainsi puissance? Jusqu'à la fin, la monarchie n'osera point requérir les hommes, imposer l'obligation militaire. C'est par l'argent qu'elle aura des soldats. Or, les tâches civiles qu'elle remplira d'ailleurs si bien justifient l'acquisition d'une puissance législative, inexistante au Moyen-Âge, mais qui va se développer. Et la puissance législative implique le droit d'imposer. L'évolution en ce sens sera longue. La grande crise du XVIIe siècle, marquée par les révolutions d'Angleterre, de Naples, bien oubliées mais combien significatives, et la Fronde enfin, correspond à l'effort des trois grandes monarchies occidentales pour accroître les impôts, accroissement dans une certaine mesure rendu nécessaire par le renchérissement général consécutif à l'afflux des métaux précieux d'Amérique et à la réaction violente des peuples. Quand le pouvoir enfin a doublé le cap, on en voit les résultats. 200 000 hommes s'entretuent à Malplaquet au lieu de 50 000 à Marignan. À la place de 12 000 gendarmes de Charles VII, Louis XVI a 180 000 soldats. Le roi de Prusse, 195 000. L'empereur, 240 000. Montesquieu s'est alarmé de ce progrès. Dans l'Esprit des lois, livre 13, chapitre 17. Une maladie nouvelle s'est répandue en Europe. Elle a saisi nos princes et leur fait entretenir un nombre désordonné de troupes. Elle a ses redoublements et elle devient nécessairement contagieuse car sitôt qu'un État augmente ce qu'il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs, de façon qu'on ne gagne rien par là que la ruine commune. Chaque monarque tient sur pied toutes les armées qu'il pourrait avoir si ses peuples étaient en danger d'être exterminés. Et on nomme paix cet état d'effort de tous contre tous. Et bientôt, prévoyait-il, à force d'avoir des soldats, nous n'aurons plus que des soldats et nous serons comme des Tartares. Il ajoutait d'ailleurs avec une prescience admirable, il ne faut pour cela que faire valoir la nouvelle invention des milices établies dans presque toute l'Europe et les porter aux mêmes excès que l'on a fait... les troupes réglées. Mais cela, la monarchie ne le pouvait pas. Louvois avait créé des régiments territoriaux dont les localités devaient fournir les effectifs, en principe destinés uniquement aux services sur place, et que le ministre tâchait de traiter ensuite comme les dépôts des corps actifs. Il rencontrait à cet égard la plus vive résistance. En Prusse, règlement de 1733, on devait mieux réussir. Mais de même et plus encore que l'alourdissement de l'impôt, ce commencement d'obligations militaires a exaspéré les populations et constitué un griffe capital contre le pouvoir. Il serait absurde de ramener l'œuvre de la monarchie à l'accroissement des armées. On sait assez quel ordre elle a mis dans le pays, quelle protection elle a donnée aux faibles contre les forts, combien elle a transformé la vie de la communauté, tout ce que lui doivent l'agriculture, le commerce et l'industrie. Mais précisément, pour se rendre capable de tous ces bienfaits, il lui a fallu constituer un appareil gouvernemental fait d'organes concrets, une administration et de droit, une puissance législative, qu'on peut se représenter comme une chambre des machines, d'où l'on meut les sujets à l'aide de leviers toujours plus puissants. Et, de ce fait, à l'aide de ces leviers, au moyen de cette chambre des machines, le pouvoir est devenu capable dans la guerre ou en vue de la guerre, d'exiger de la nation ce qu'un monarque médiéval n'aurait pas même rêvé. L'étendue du pouvoir, ou la capacité de diriger plus complètement les activités nationales, a donc causé l'étendue de la guerre. Une petite musique ?
Non, je vais faire une petite annonce, plutôt.
Entendu.
Pedro Fidalgo qui officie à ma place normalement les autres jours, les autres jeudis, est aussi un cinéaste. Donc il a fait une sorte de biopic sur Dominique Grange, une grande une dame contestataire depuis 68. Voilà. Ça s'appelle, le film s'appelle N'effacez pas nos traces. Dominique Grange, une chanteuse engagée. Et nous avons eu la chance, Elsa et moi, de voir le 21 février le film au Forum des Images dans les Halles. Voilà. Et ce film est vraiment très poignant, vraiment. Ça montre vraiment tout ce qu'elle a fait, et même ses différentes incarcérations. Et une chose que je ne savais pas, c'est que la prison de la Roquette, on pense que ça a été détruit depuis très très longtemps. Non, elle a subsisté jusqu'en 1974. Donc c'était à l'époque où il devait y avoir Giscard d'Estaing qui était au pouvoir. Donc là, tout a été ensuite détruit. Je ne sais pas s'il y avait la grande et la petite Roquette. Je sais que tout a été détruit à ce moment-là. Et ils ont construit des immeubles. Et si vous passez dans le 11e, il y a un square qui porte le nom d'une pacifiste.
Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges. Sur l'endroit où devait être la Roquette à l'époque. C'est un drôle de choses. On dirait qu'il voulait dire on est aussi dans le pacifiste dans le 11e, comme ça. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, de toute façon.
Voilà. Oui, c'est au même titre que la basilique du Sacré-Cœur, construite sur le dernier peloton d'exécution et des communards, afin de purifier l'endroit. Bon, Ils essayent de purifier l'endroit. Ils auraient dû mettre qu'une plaque commémorative disant que la petite roquette se trouvait là.
Mais pareil. Mais là.
Pour rendre justice.
Donc le prochain, la prochaine projection du film de Pedro Fidalgo, ce sera le jeudi, le 8 mars, pardon, à Ivry. Au forum Léo Ferré, et ça correspondra aux journées internationales de la lutte des femmes. Donc, après la séance, il y aura un échange avec Pedro Fidalgo et Dominique Grange. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir cette projection. Ça commencera à 20h précises. Et allez-y, vraiment, là, vous serez vraiment... Vous serez toute la bagarre qu'elle a menée. Et ensuite, nous, on a eu la chance de voir Jacques Tardy, qui était avec nous lors de la projection à Paris. Là, peut-être qu'il ne sera pas présent, ou on ne sait jamais, il peut faire un passage surprise. Mais quand elle a été libérée de son incarcération à La Roquette, elle a connu Jacques Tardy. Et depuis, ils ont formé un couple formidable, jusqu'à présent.
Un bon partenariat.
Et quand on sait que Jacques Tardy, il dénonce dans toutes ses BD l'horreur de la guerre de 14-18, parce que son grand-père lui en a parlé en long, en large et en épaisseur, comme on dit. Et vraiment, c'est... il faut plus de guerre, plus de guerre, plus de guerre. Donc... il est 19h20. Nous allons passer le. Nous allons arrêter maintenant, parce que si je mets une musique, ça va dépasser l'heure. Et notre ami Yves, de Jazz Yves, attend pour prendre le créneau. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas d'aller le 8 mars. Au théâtre, au Forum Léo Ferré pour voir ce film. Allez-y, et c'est vraiment, c'est 11 rue Barbès à Ivry. Voilà. Allez-y, et vous ne serez pas déçus. Et même, je crois que, j'espère pour lui, pour Pedro, qu'un DVD sortira de ce film.
Oui.
S'il trouve quelqu'un qui est, comme on dit, excusez-moi du mot, assez de couilles pour produire un certain nombre de DVD. Voilà. Eh bien, nous terminons notre émission sur notre générique de fin de Boris Vian. Nous retrouvons nous à la fin du mois avec Suzanne pour une belle émission à trois.
Mm-hmm. Oui.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Réfléchissez bien et mutinez-vous si vous le pouvez.
Oui. Et surtout, non au SNU.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3 m 50. Y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. «
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Don't